micro ouvert.
Vous écoutez Fréquence Mistral. Micro ouvert. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale Biodiversité et Environnement. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, a publié lundi 20 mars la synthèse de 8 ans de travaux. Le GIEC entretient l'espoir ténu, certes, qu'il reste une chance de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius par rapport à la période pré-industrielle, à condition d'un sursaut international. Donc conserver un monde vivable pour toutes et tous implique de réduire immédiatement et drastiquement les émissions dans tous les secteurs. Les options pour y parvenir, mais aussi pour s'adapter aux dérèglements climatiques, sont nombreuses, efficaces et disponibles dès maintenant. Nous avons deux invités dans ce micro ouvert pour parler de préservation de la biodiversité. Il s'agit de Anne-Claudius Petit, présidente de l'ARB. Bonjour.
Bonjour.
L'ARB, c'est l'Agence régionale pour la biodiversité et l'écologie en PACA. Et Ken Novelas, paysagiste concepteur à la Fédération française du paysage. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes la délégation de la Corse, PACA Corse.
PACA Corse, voilà, exactement.
Merci d'avoir répondu présente pour cette émission. Pour commencer, une question pour vous, Anne-Claudius Petit. L'Agence régionale pour la biodiversité et l'écologie est un établissement public de coopération locale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les actions que vous mettez en place ?
Oui, alors effectivement, c'est un organisme, une agence régionale dans laquelle vous allez retrouver des collectivités, en premier rang desquelles la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, évidemment. Et nous travaillons en partenariat fort avec des financements de l'Agence de l'eau, de l'Office français de la biodiversité, de l'ADEME, de l'ADREAL. Et nous travaillons sur toutes les questions, en particulier de biodiversité, mais aussi de manière plus transversale sur les questions de la transition écologique des territoires. Donc voilà, tout ce qui va toucher un peu plus sur l'eau et les milieux aquatiques, l'impact des activités économiques, les déplacements, voilà, au travers par exemple d'actions pour les zones d'activité économique. Donc on travaille avec de plus en plus d'ailleurs avec les entreprises, parce que notre cœur de cible auparavant c'était plus les collectivités, mais à la demande de l'OFB, mais aussi à la demande des entreprises. D'ailleurs, hein, on travaille de plus en plus avec elles vers cette transition écologique, ce qui nous amène d'ailleurs à parler de la biodiversité, alors qu'effectivement, vous parlez du rapport du GIEC, on parle beaucoup, beaucoup plus du réchauffement climatique, des dérèglements climatiques, et un peu moins de la biodiversité. Alors heureusement, maintenant, le lien est bien fait, mais effectivement, dans les faits, on parle d'émissions de gaz à effet de serre, de CO2, mais on ne fait pas toujours le lien avec l'effondrement de la biodiversité ou avec les services rendus par la biodiversité.
Oui, parce que c'était une de mes questions. Est-ce que vous suivez, vous, les recommandations du GIEC, là, et est-ce que vous avez lu cette synthèse, ce sixième rapport, et du coup, est-ce que vous suivez une ligne directrice sur les enjeux environnementaux ?
Ah ben notre action, nos actions d'ailleurs, parce qu'elles sont plurielles, elles s'inscrivent pleinement dans ces problématiques, dans ces thématiques, effectivement. Non seulement en termes de résilience des territoires, parce que vous en avez parlé, mais aussi en termes de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, prendre sa part dans la lutte contre le réchauffement climatique, entre guillemets, parce que c'est difficile de dire qu'on peut lutter contre le réchauffement climatique, mais en tout cas en tenir compte. compte et essayer d'améliorer l'ensemble des pratiques hein, au niveau des collectivités. Il y a beaucoup de choses à faire. Réduire l'usage des plastiques, par exemple, on n'y pense pas forcément, mais c'est un rapport avec les ressources carbonées, puisque ça vient du pétrole. C'est aussi de la pollution quand ça arrive dans les milieux. Enfin, vous voyez, c'est des problématiques très transversales dans lesquelles on accompagne les collectivités pour qu'elles comprennent, en fait, tous les enjeux, parce que on ne pense pas forcément dans l'action publique à l'ensemble de ces enjeux.
Et depuis quand l'arbre est-elle implantée sur les territoires régionaux ? Est-ce que c'est une structure qui existe depuis longtemps ?
Oui, elle existe depuis plus de 40 ans. Alors en fait, ses missions ont beaucoup évolué parce qu'au départ, c'était une structure qui regroupait la région et les départements sur les thématiques de l'eau et d'assainissement. Des compétences qui ne sont plus celles ni des départements ni de la région. Donc en fait, c'est une structure qui a évolué, dans laquelle maintenant vous allez retrouver les métropoles, par exemple, qui se sont engagées beaucoup sur la biodiversité. Et en fait, depuis la possibilité qui a été donnée aux régions de créer des agences régionales de la biodiversité, on a fait évoluer notre agence vers la biodiversité, ce qui fait que, en gros, à 90 ou 95% de notre programme d'action annuel est orienté sur des actions en faveur de la préservation de la biodiversité, tout en gardant, comme je le disais, un accompagnement vers des territoires vers la transition écologique.
Donc nous sommes ici aujourd'hui pour parler de votre guide Plantons local que vous venez d'éditer. Mais avant cela, est-ce que Ken Novellas, vous pouvez nous présenter la Fédération française du paysage et vos actions ?
La Fédération française du paysage, en fait, c'est une association nationale regroupant environ 800 à 900 paysagistes concepteurs en France. Elle est présente à travers la France grâce à ses délégations régionales. Comme vous l'avez dit, je suis moi-même membre du conseil d'administration de la délégation PACA Corse aux côtés d'autres confrères. Et l'objectif de la FFP est de fédérer en fait les paysagistes concepteurs et aussi évidemment de les informer des actualités les concernant, des concours, des appels d'offres, des offres d'emploi, des évolutions juridiques qui influencent ce métier. Et évidemment, la FFP nationale est un relais avec les instances politiques pour... notamment la politique du paysage en France et plus précisément en 2016, elle a permis la protection du titre de paysagiste concepteur, titre qui n'était pas protégé auparavant dans le cadre de marché public. Donc ça permet notamment pour les maîtrises d'ouvrage d'être assuré de compétences liées au paysage quand elle lance un marché public, quand elle lance un projet, et pour nous d'être reconnus et de pouvoir répondre à ces marchés en toute transparence et que chacun puisse connaître les compétences liées à ce métier.
Parlons du guide que vous venez d'éditer, Plantons local, qui permet d'améliorer le cadre de vie en offrant davantage de nature. Est-ce que vous pouvez d'abord, pour commencer, nous dire depuis quand vous travaillez sur ce guide ? On sait qu'il vient d'être édité en mars 2023. Et aussi, qui a travaillé sur ce guide ?
Alors, c'est un travail de 2 ans. Et effectivement, c'est un travail qu'on a fait en réunissant une équipe pluridisciplinaire, notamment, effectivement, les entreprises du paysage. Et en fait, ce guide, il est né notamment d'un projet LIFE, donc un projet européen qui s'appelle Habitat Calanque, dans lequel l'agence est chef de file, et dans lequel nous avons touché de près l'importance de la végétation locale et aussi le risque que représentent les espèces exotiques envahissantes. Donc on a bien vu, en fait, très concrètement, une des problématiques, un des dangers qui pèse sur la biodiversité locale. Et donc on s'est posé la question comment accompagner les porteurs de projets, les aménageurs, qu'ils soient publics, privés, et ensuite ça infusera, je pense, vers les particuliers, mais comment fournir cette connaissance qui n'était pas toujours disponible pour les professionnels de la végétation la plus adaptée à proposer dans des aménagements, que ce soit dans le littoral ou en Provence, par exemple, vers le Vaucluse ou dans les territoires alpins, on ne va pas proposer la même chose. Et pourtant, les jardins sont relativement standardisés, en réalité, enfin les jardins ou les espaces verts ou les aménagements. Et il nous semble que en fait, l'idée, c'est vraiment de proposer cette connaissance pour avoir des jardins qui utilisent moins d'eau, qui sont plus adaptés à nos sols, donc qui sont ensuite plus résilients, qui sont peut-être un petit peu moins carte postale, un petit peu moins flamboyants, mais qui correspondent au paysage de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Qui correspondent aussi à la faune, on pense aux petits oiseaux, aux insectes, voilà, donc c'est tout un ensemble en fait qui correspond à une continuité écologique entre, on pense souvent à la ville, mais aussi les villages, la continuité écologique avec les milieux qui nous entourent. C'était flagrant dans les Calanques, puisque Marseille, enfin le parc national des Calanques, c'est vraiment le parc périurbain, et on voit que forcément la ville a un impact sur la biodiversité des Calanques, mais en réalité c'est le cas sur l'ensemble du territoire régional, et bon, sur toutes les autres régions c'est de la même manière, mais c'était important de fournir cette connaissance qui n'était pas forcément disponible.
Et donc, ce guide, il s'adresse à qui exactement ? Il n'y a que les entreprises et les collectivités, ou on peut s'en servir aussi quand on a un jardin et qu'on habite à Marseille, par exemple ?
Ah bah, on peut s'en servir quand on a un jardin, mais c'est vrai que c'est quand même un beau livret, je dirais, qui est assez fourni, qui est assez technique. Hein, je pense que Ken Novelas pourra nous le confirmer. Qui est peut-être pas suffisamment pratique et directement applicable à un jardin tout simple, notamment parce que j'ai un tout petit jardin, la connaissance du sol, je l'ai pas du tout en fait, par exemple. Donc c'est vrai que l'idée de ce guide qui est relativement technique, c'est aussi d'accompagner des aménageurs. Alors, je parlais par exemple des collectivités, mais en fait, ça passe, d'ailleurs, vous l'avez très bien dit, Ken, par la commande publique. Les communes, les collectivités locales, quand elles ont en commande un certain nombre de besoins, c'est dans leur marché qu'elles vont pouvoir exprimer leur besoin d'avoir de la végétation locale. Et ensuite, les entreprises du paysage auront cet outil pour pouvoir y répondre de la meilleure manière possible.
C'est ça que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que souvent on a l'impression quand on va se balader que c'est la nature, mais la nature a depuis très longtemps été aménagée et donc justement par des experts en forêt et en végétation. Et donc par rapport à ce guide un peu, est-ce que Ken Novelas, vous pouvez nous parler plus techniquement comment il est construit pour que, par exemple, des personnes, si je suis conseiller municipal d'un village des Bouches-du-Rhône et que je veux m'en servir, comment
Alors déjà, très pratiquement, il est réparti en petits onglets, divisé par milieu. Donc c'est assez facile de s'y retrouver. On a milieu boisé, milieu ouvert, milieu humide et milieu urbain. Alors quand on parle de milieu... ça sous-entend aussi une définition écologique, mais il faut plutôt la prendre dans sa définition la plus globale. On pourrait aussi parler d'ambiance végétale à proprement dit. Donc, du coup, par milieu boisé, on va entendre plutôt milieux fermés avec des grands arbustes ou des arbres. Et donc, du coup, on va avoir la palette végétale associée à ces milieux en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, en fait, c'est très facile. C'est plutôt un outil pratique qui a été pensé et réparti comme ça, je pense. On peut me corriger, hein, mais le système d'intercalaire assez simple permet de s'y retrouver et de dire, en tant que service technique d'une commune, n'ayant pas forcément toutes les compétences ou n'étant pas expert sur ces questions, je veux lancer un projet et je suis plutôt dans ce contexte-là, je vais, à partir du guide que j'ai, déterminer à peu près la palette végétale qui serait intéressante à développer dans ma commune. Voilà à peu près comment je pourrais l'expliquer. Je trouve assez pratique. Et puis, comme vous l'avez dit, je pense que c'est vraiment important pour les... Je le vois évidemment pour les petites communes, parce qu'il n'y a pas forcément tous les services techniques appropriés, mais même plus largement, hein, je pense pour l'ensemble des professionnels qui travaillent sur l'aménagement, qu'on soit paysagiste, architecte, urbaniste, écologue, le guide il peut être intéressant à manipuler pour ces professions-là.
Et est-ce que des guides comme cela ont pu exister dans les décennies dernières ? ou c'est une première ?
Alors, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est une première. Je crois que d'autres régions ont eu la même démarche.
Occitanie, je crois.
Voilà, en Occitanie, ouais, par exemple. Mais effectivement, dans Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est une première. Et je pense que c'est intéressant aussi d'indiquer que le guide fait un rappel aussi sur d'une liste des espèces exotiques envahissantes. Parce qu'effectivement, vous parliez de ce qui semble être naturel. Mais notre idée, là, c'est vraiment de promouvoir les plantes indigènes, c'est-à-dire celles qui, en fait, sont ici, en Provence, dans les Alpes, sur la Côte d'Azur, sans intervention de l'homme. Les plantes indigènes, on voit pas trop forcément ce que c'est. Et parfois, quand on voit les figuiers de Barbarie, les griffes de sorcière, on se dit oui, ce sont des plantes locales. En fait, non, pas du tout.
Ah bon ?
Oui, les agaves non plus. Je pense, enfin, c'est vraiment les trois qui me semblent les plus représentatifs, d'autant plus. Parce que vous allez me dire, les palmiers, peut-être, c'est pas forcément local. Oui, mais c'est les trois que je viens de citer sont non seulement exotiques, mais aussi envahissantes. C'est-à-dire qu'elles... Oui. Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont là, enfin, vous le voyez assez bien, hein, quand vous avez un tapis de griffes de sorcière, en fait, elles s'étendent et il n'y a plus rien d'autre qui pousse parce qu'elles étouffent le reste. Et le reste, parfois, c'est des petites fleurs qui n'ont l'air de rien, mais voilà, comme par exemple dans les calanques, vous avez l'astragale de Marseille, qui est une fleur qui est assez modeste. En été, ça ressemble à un petit buisson presque sec. On le piétine sans forcément savoir, sauf que l'astragale de Marseille, à 98%, elle se trouve là, dans nos calanques. Donc si on les piétine et s'il n'y en a plus, c'est fini. Et donc ces plantes exotiques envahissantes, mine de rien, en fait, si on les retrouve dans la nature, c'est aussi parce qu'on les a plantées dans nos jardins, dans nos espaces verts communaux, etc. Donc il faut éviter maintenant de les planter très clairement. Donc, c'était important pour nous de l'avoir dans ce guide également.
Et j'imagine des plantes qui nécessitent peu d'eau.
Oui, bien sûr, c'est aussi l'avantage, voilà, de la végétation indigène, c'est que comme elle est adaptée à nos climats, elle est adaptée à nos sols. Alors peut-être pas la première année, il y a un moment aussi où il faut que les plantes, quand on plante un arbre ou un arbuste, il faut aussi qu'ils prennent racine, mais néanmoins ce sont des plantes qui sont plus adaptées, donc dont on espère qu'elles seront plus résilientes aux réchauffements qui sont déjà constatés et encore plus ceux qui sont annoncés.
Et une question pour vous, Ken Novella, vous mettez des plantes à proposition, en tout cas. Est-ce que vous en plantez particulièrement pour pouvoir avoir répondre à une demande des collectivités, des entreprises ?
Alors déjà, faut se dire que historiquement en France, on associe le paysagiste à l'action de planter. Si évidemment c'est une de ses compétences, mais évidemment maintenant on fait aussi des études sur du grand territoire et tout ça. Donc évidemment, quand il y a un appel d'offres, on va être plus concerné sur ce qu'on appelle le lot espace vert en marché public, pour être vraiment précis. Et donc, du coup, on peut être notamment sollicité pour ça. Après, je dirais, quant au choix de la palette végétale, c'est un peu à l'influence et à la manière de faire de chaque paysagiste, en concertation avec la maîtrise d'ouvrage, de choisir la palette végétale appropriée. Alors, évidemment que nous, en tant que paysagistes, en ayant pour objectif le confort des habitants, trouver de la fraîcheur, trouver de l'ombre, on va essayer de réfléchir en intelligence pour que cette implantation de notre projet, et plus spécifiquement du choix de la palette végétale, soit appropriée. Après, il faut pas oublier aussi que souvent, on a envie de plantes, mais on n'a pas forcément envie de les gérer. Donc, nous, notre objectif, évidemment, dans le cadre de chacun de nos projets, c'est essayer de dire à ces communes qui peuvent avoir envie, parce qu'évidemment, au-delà, sans même parler de mode, mais au-delà de ces questions environnementales et du besoin, je dirais, sociétal de plantes de la part des habitants, ben, il y a aussi l'intérêt à gérer ces espaces, à mettre à l'honneur aussi le métier de jardinier, de gestionnaire d'espaces verts, et de dire il faut aussi investir du temps et donc du coup aussi de l'argent sur comment gérer dans le temps long ces espaces pour qu'ils soient bénéfiques, évidemment, dans le temps long.
Et sur le choix des plantes, on a parlé donc d'espèces indigènes, on a parlé de questions sur l'eau et de plantes qui pompent pas trop d'eau. Et il y a aussi des enjeux. Maintenant, on a découvert que des plantes peuvent absorber une partie de certaines pollutions. Est-ce que vous encouragez, par exemple, des entreprises à mettre tel type de plantes ou tel type en fonction des pollutions qui peuvent apparaître?
Alors, la question des polluants est encore pas nouvelle, mais je dirais elle est balbutiante dans le cadre de projets. Alors, on a ce qu'on appelle la phytoépuration, notamment des eaux, pour traiter l'eau par des systèmes d'espaces plantés avec une eau non apparente, mais avec des plantes plutôt liées à un milieu humide qui vont dépolluer jusqu'à 90% si c'est bien fait les eaux. Donc ça, c'est faisable. Après, il y a des plantes qui peuvent être plantées dans le sol, mais on va plutôt parler de... On fait aussi de la phytostabilisation, c'est-à-dire qu'il y a des tests, par exemple, dans le parc national des Calanques, comme il a été précisé précédemment en exemple, où on fait de la stabilisation des pollutions. Parce que l'une des questions, c'est évidemment de se dire si le polluant, il va vulgairement, je vais dire, dans la plante, qu'est-ce qu'on fait de la plante après? Donc il y a aussi ces projets où on peut penser à de la phytostabilisation, à se dire comment on stabilise des pollutions sur un site circonscrit grâce aux plantes. Ça se fait aussi. Après, je pense que la recherche scientifique avance en même temps que les projets se font actuellement. Et peut-être que demain, on aura une obligation à traiter certaines eaux, en tout cas un pourcentage de certaines eaux par les plantes, ou de traiter certains sols. Il y a des projets expérimentaux qui se font en France, évidemment, hein, mais je dirais que c'est comme le changement climatique. C'est pas demain, on est en cours, et donc du coup, c'est difficile de vous dire exactement... tout ce qui est mis en place aujourd'hui, tant on est dans une phase d'expérimentation face à ces questions actuellement.
Merci beaucoup. On va se faire une petite pause musicale. Nous écoutons Yannick Noah aux Arbres Citoyens.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau. Reste notre idéal, faire les beaux. Remplir la balance, quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules, de squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses,
aux Arbres Citoyens,
il est grand temps qu'on propose
un monde pour demain.
Aux Arbres Citoyens, quelques baffes à prendre. La veille est pour demain, des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux. Plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir? Puisqu'il faut changer les choses.
Aux Arbres Citoyens.
Micro ouvert spécialement sur la biodiversité et l'environnement avec Anne Claudius-Petit, présidente de l'ARBE, et Ken Novellas, paysagiste concepteur. Alors, ce guide Planton local, comment va-t-il être diffusé dans les prochaines semaines ?
Alors la première chose, c'est que vous pouvez le trouver en ligne donc sur le site de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement de Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc arbe-regionsud.org, puisqu'il est téléchargeable. Alors c'est vrai que c'est un gros document. Néanmoins, on en a beaucoup imprimé. On en a donné un certain nombre d'exemplaires à tous nos partenaires, donc je pense notamment au Conservatoire botanique, il y avait l'INRAE, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, donc dans les différents départements. Donc voilà, il y a un certain nombre d'exemplaires. Et des élus régionaux, des élus de la ville de Marseille m'en ont déjà fait la demande. Donc je pense que les personnes intéressées peuvent faire la demande en contact via le site de l'agence. Et puis, alors c'était hier, on a animé un webinaire pour présenter ce guide. Mais effectivement, c'était hier, 28 mars, entre 13h et 14h30. En fait, l'agence anime des webinaires régulièrement qui sont sur des sujets très pratiques. Mais vous pouvez retrouver ce webinaire également sur le site en réécoute.
D'ailleurs, quel retour, est-ce qu'il y a un retour plutôt positif sur ce guide qui vient de paraître de la part des collectivités ou des entreprises ?
Alors, de la part des collectivités dans leur ensemble, je ne sais pas, mais de la part des élus, oui. En tout cas, à chaque fois que j'en parle, c'est un sujet qui fait tilt, mais je pense notamment parce que là on est en 2023, donc les conseillers municipaux d'aujourd'hui, ils ont été élus il y a 3 ans, ils sont à peu près à mi-mandat, et il y en a beaucoup qui avaient dans leur projet renaturer la ville, planter des arbres, désimperméabiliser des cours d'école, donc c'est-à-dire replanter aussi dans des cours d'école. Au bout de 3 ans, les élus n'ont pas forcément eu le temps de réaliser l'ensemble de ces projets, donc on arrive peut-être au bon moment pour s'insérer dans ces projets, leur donner des outils et des guides pour planter local, ajouter un plus. Et puis je pense qu'effectivement on parlait de résilience et du fait que ces plantes s'adaptent mieux et donc consommeraient moins d'eau et ont besoin d'un peu moins de d'entretien, ça parle aussi aux élus locaux, hein, forcément. On sait qu'on est en période de sécheresse, on est déjà en alerte sur un certain nombre de territoires en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc forcément, les élus municipaux, ils n'ont pas envie de dire « j'ai plus d'eau, j'arrête des projets de végétalisation ». Ils ont plutôt envie de se dire « on continue tout en adaptant les projets éventuellement et intégrer cette question de végétation et de plantes indigènes ». C'est une question, je pense, intéressante. Puis ça répond clairement à la fois aux besoins de nature et aussi à la question de la résilience des territoires urbains, parce que c'est une grosse question, hein. Supporter la chaleur en ville, on l'a vu en particulier l'année dernière, mais enfin bon, 2022, c'était pas la première année, on avait très très chaud en ville. On sait que ça va se reproduire largement, donc on a de quoi faire et les élus en ont conscience.
Bonne nouvelle alors.
Tout à fait.
J'avais une autre question un peu plus large, c'est qu'effectivement, il y a tous ces enjeux de végétalisation des villes. La perte de la biodiversité est due à la bétonisation accrue de terres agricoles devenues constructibles. Voilà. Et est-ce qu'il est possible d'empêcher cette disparition d'espèces végétales et animales d'autres manières aussi que, donc, il y a cette super initiative du guide Planton local. Est-ce que... vous développez d'autres initiatives à l'ARBE ou chez les paysagistes, vous encouragez d'autres gestes ?
Vous voulez peut-être...
Allez-y, je compléterai pour ma partie.
Je dirais déjà que le guide, il amène à planter. Déjà, il y a écrit planton local, donc le premier mot, c'est planton. Donc déjà, non, mais c'est tout bête à dire, mais bon, c'est intéressant de le promouvoir déjà, parce que c'est pas forcément une évidence, bien que... Je dirais que à la Fédération française du paysage, on est une association nationale, donc on fédère plus les paysagistes et on n'est pas dans des actions concrètes opérationnelles, bien que elle s'est mobilisée aux côtés d'autres fédérations nationales, notamment la Fédération des CAUE, la Fédération des parcs nationaux en France en 2022, sur un appel au bon gouvernement et essayer de promouvoir au travers de quatre principes la transition écologique des territoires et essayer d'appeler, en tout cas dans le cadre des élections de l'époque, à la fois présidentielle et législative, d'amener à... en tout cas, par la mobilisation de ces fédérations, d'amener à intégrer un peu plus cette question de la transition écologique des communes et des territoires au travers des programmes politiques. Après, je dirais qu'il existe plein d'outils actuellement en tant que... J'ai une double casquette de paysagiste urbaniste, donc il existe plein d'outils à l'échelle communale, hein, les zones, les ZAP, les zones agricoles protégées, les PAEN... Il y a déjà beaucoup d'outils. La question, c'est évidemment de les mettre en œuvre. Alors évidemment, c'est des zonages de PLU, de plans locaux d'urbanisme. Donc à l'échelle communale, on peut protéger certains territoires agricoles de la construction. Donc c'est des outils qui existent. Ça nécessite une décision politique. Et après, je pense qu'il y a d'autres outils comme le ZAN, par exemple, qui sont en train d'arriver, qui posent la question, donc la zéro artificialisation nette, qui sont en train d'être discutés, et la question est de savoir dans les années à venir si ça sera aussi un outil qui permettra un peu plus de protéger cette berthe de la biodiversité et plus largement aussi les terres agricoles.
Donc c'est encourager les politiques à aller vers des actions qui existent déjà et les encourager à y aller.
C'est ça.
Après, il y a effectivement des grandes directions politiques. Alors le zéro artificialisation nette, il a été intégré dans une loi l'année dernière, sauf erreur de ma part. Mais nous, à l'échelle de la région, on avait déjà intégré cette problématique parce qu'on sait qu'une des fortes pressions sur les milieux naturels, sur les milieux agricoles, c'est l'urbanisation. Mais l'urbanisation pour se loger, pour les activités économiques, voilà. Et on sait que c'est un vrai sujet. La consommation d'espaces naturels et agricoles était trop forte, et c'est le constat qu'on a fait au cours du précédent mandat, donc en 2016-2017. Et quand on a élaboré le schéma régional d'aménagement, de développement et d'égalité, de développement durable et d'égalité des territoires, le SRADET, on en a tenu compte et on a donné cet objectif de réduire la consommation d'espaces naturels et agricoles, donc cette pression dont vous parlez. C'est un grand document, ce schéma est un grand document sur des politiques de long terme, en fait, qui a été voté en 2019 à la région et qui s'impose aujourd'hui quand vous révisez les plans locaux d'urbanisme, les schémas de cohérence territoriale. Donc tous ces documents d'urbanisme locaux doivent se mettre en conformité avec ces grands objectifs régionaux. Et après, voilà, d'un côté très pratique, nous, notamment à l'agence, on fournit des outils aux élus locaux parce qu'ils sont parfois un peu perdus entre toutes ces injonctions. Il faut construire des logements sociaux, mais il faut ne pas artificialiser. Enfin, voilà, il y a beaucoup de données qui rentrent en compte. Et à l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, on développe des démarches et des outils pour prendre en compte la biodiversité dans les projets d'urbanisme. On a aussi un outil qui me paraît important, c'est le label Parc Plus, dans lequel d'ailleurs l'ADEME et l'ADREAL sont partenaires financiers, et qui s'adresse en fait aux parcs d'activité, dont parfois d'ailleurs les collectivités sont souvent gestionnaires. En fait, l'idée, c'est vraiment de promouvoir des démarches vertueuses au niveau des parcs et des zones d'activité. Donc ça s'adresse évidemment aux entreprises dans leur vie de tous les jours et dans leur aménagement. Mais l'idée qu'il y a derrière, c'est vraiment d'optimiser les, je crois, 1500 zones d'activité existantes, peut-être un peu plus en Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec cette idée de dire on optimise celles qui existent déjà pour ne pas avoir besoin d'en créer de nouvelles. Parce que souvent, les élus locaux sont tentés d'en créer de nouvelles en se disant c'est comme ça que je vais avoir une attractivité économique. C'est normal, c'est important pour un maire d'arriver avoir cette attractivité, amener des entreprises, des emplois sur leur territoire. Mais il y a cette problématique d'artificialisation, donc pour soit pour limiter la création de nouvelles zones d'activité, soit en tout cas pour optimiser celles qui existent déjà, et pour tenir compte d'ailleurs sur une zone d'activité, on peut tout à fait intégrer la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, plus d'aménagements paysagers avec de la végétation locale. Parce que bon, voilà, effectivement, on pense aux espaces verts en ville, mais les zones d'activité, quand vous allez travailler, vous êtes content aussi d'avoir de beaux espaces verts. Enfin, je pense au parc de le pôle de l'environnement de l'Arbois, qui est assez extraordinaire et qui a toujours le niveau le niveau le plus haut de ce label Parc Plus. Mais je pense que c'est un objectif et c'est aussi un élément d'attractivité pour les entreprises. Donc, on essaye de le valoriser. Valoriser ces démarches qui sont un peu nouvelles à ce niveau-là.
Merci d'être venu dans cette émission et pour toutes les propositions de solutions que vous mettez en avant. Et c'est comme ça qu'on pourra revégétaliser tous les espaces. Une annonce d'un événement à Marseille les samedis 8 et dimanche 9 avril. Le MUCEM met à l'honneur son jardin des migrations avec la fête des plantes. Durant tout le week-end, une dizaine de pépiniéristes spécialistes du jardin méditerranéen proposent plans et conseils botaniques au sein d'un étonnant marché aux plantes. Et il y aura également des artisans locaux qui présenteront des herbiers, des eaux florales et des cosmétiques. Il y aura des visites guidées, des ateliers et une conférence d'Alain Baraton, qui est jardinier en chef du domaine du Trianon et du Grand Barc du château de Versailles. Ah, je ne savais pas qu'il était spécialiste des plantes méditerranéennes, mais voilà. Non, c'est en plus de ce grand week-end dédié à l'agroécologie et à la protection du vivant. Donc, ça fait plaisir que le MUCEM mette en place un week-end comme celui-là.
Ça fait déjà quelques années, c'est vrai qu'on a, en tant que paysagiste, on connaît quelques-uns des pépinières et c'est vraiment un super événement. Plus largement, si je peux rajouter un petit mot à la Fédération française du paysage PACA Corse. Avec le Covid, ça a été un peu chamboulé, mais on tente d'organiser chaque année 4 à 5 événements en PACA, ce qu'on appelle des expériences de paysage. Donc c'est des conférences ouvertes au public. Pour connaître un peu le métier de paysagiste au travers d'une ou de plusieurs personnes qui sont paysagistes dans cette région ou plus largement en France et qui présentent un projet. Donc ça peut à la fois être intéressant pour le public de connaître cette profession, mais pourquoi pas même de créer des vocations chez un public plus jeune. Voilà, donc c'est à l'occasion, vous allez sur le site de l'FFP, vous pourrez avoir les dates prochaines sur ces expériences de paysage en PACA. Voilà.
Moi, je voulais juste ajouter, parce qu'on a un bel événement qui est organisé par la région Sud, le 15 avril, le samedi 15 avril, c'est un grand appel sur tous les territoires, nettoyons le Sud, des nettoyages des milieux naturels, il y en a un peu partout, un peu tout le temps, là on essaye de mettre un peu le paquet le 15 avril en mobilisant les communes, les parcs naturels régionaux. Et il y a une page internet sur laquelle on peut voir les événements qui sont organisés près de chez vous, donc sur tout le territoire, et pour ensuite s'inscrire et venir donner un coup de main pour nettoyer les milieux. Et en général, il y a des actions de sensibilisation qui sont aussi organisées en même temps. Donc on fait d'une pierre deux coups, on essaie de tous donner un coup de main pour ramasser les déchets qui se retrouvent malheureusement dans la nature, et puis se rencontrer, travailler tous ensemble sur ces questions de protection de notre magnifique biodiversité de Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est Nettoyons le Sud.
Très bien, de belles initiatives en perspective. Merci d'être venu présenter le guide Plantons Local.
Merci à vous.
On va se quitter avec Green Team, les enfants du monde.
Maman m'a dit de faire attention. J'ai pas compris mais j'ai monté le son. J'ai vu la terre mourir à petit feu. Comme dit mon père, on aurait pu faire mieux. J'ai pas compris, j'ai posé des questions. Dites-moi les grands, n'ont-ils pas de raison? Ce serait dommage qu'on ne puisse plus vivre ici. Ou même pire qu'on meure de leur connerie. Et ça danse, danse, danse dans ce monde. Mais ça ne pense pas. Et ça danse, danse, danse dans leur monde. Mais nos vieux ne pensent pas.
Nous sommes les enfants.
Et tu devrais faire pareil, mon garçon. Dans quelques temps, ce sera déjà trop tard. On ne peut plus laisser ça au hasard. J'ai pris ma feuille et fait quelques brouillons avant de vous écrire cette chanson. La vérité sort de la bouche des enfants. Donnez-nous droit de devenir grand. Et ça danse, 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 danse.
Nous sommes les enfants.